Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Comme chaque dimanche, vous êtes à l'écoute de Rencontre et vous êtes à l'écoute de Beurre FM de manière générale. Et c'est très bien. Rencontre ce matin, une belle rencontre avec une pièce de théâtre qui s'appelle Vendredi 13, qui se joue actuellement à Paris, au théâtre de la Reine Blanche. Les invités de Beurre FM ce matin sont Bernadette Le Sachet, metteuse en scène, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue ce dimanche matin à Beurre FM. Et est avec elle Maïel El-Hajaoui, comédien, qui est donc un des interprètes de cette pièce Vendredi 13. Dans une deuxième partie de l'émission, nous rejoindrons d'autres comédiens. Vendredi 13, vivre après le 13 novembre 2015. Qui se souvient de cette date? Tous. Tous et toutes avons été bouleversés par cette date, ces attentats au théâtre, sur les terrasses de café, dans ce Paris en vie, dans cette soirée joyeuse et qui pourtant a été un drame considérable. Cette création que vous avez faite, Bernadette Le Sachet, on peut dire aussi avec Jean-Louis Boer, si je peux me permettre, dans l'écriture en tout cas. C'est son écriture,
n'est-ce pas? C'est son écriture totalement.
Vous êtes metteuse en scène, donc, et vous allez, dans un premier temps, si vous voulez bien, Bernadette Le Sachet, nous dire comment et dans quel contexte a été écrite cette pièce de théâtre, et puis après on reviendra sur la mise en scène et sur les personnages, comme on dit dans le théâtre, que sont quatre comédiennes et comédiens qui illustrent cette émotion, cette douleur et ce qu'a porté le souvenir de ce vendredi 13 novembre 2015.
Alors la genèse de ce texte, c'est évidemment, on sait ce qui est arrivé le 13 novembre, et Jean-Louis Boer, moi aussi, on a perdu... Il y a eu à la Belle Équipe, à la terrasse de la Belle Équipe, c'était l'anniversaire d'Oda. Moi, je ne la connaissais pas, mais ma fille la connaissait très bien. Et on a perdu, il y a eu beaucoup plus de morts, mais il y a eu 6 personnes que notre fille connaissait très bien. Et nous, 3, dont une qui était comme une fille depuis l'âge de 3 ans. D'ailleurs, je ne retrouve plus de photos de ma fille petite sans avoir Justine à côté. Et ça a été une émotion considérable. Et un mois et demi après, Jean-Louis a éprouvé le besoin d'écrire ce texte. Je pense qu'il y avait une souffrance énorme. Il en a parlé à Philippe Adrien pour savoir s'il avait une légitimité pour écrire tout, parce qu'ils avaient une très 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 grande osmose entre deux. Il y avait déjà, et Philippe avait monté 4 pièces de Jean-Louis. Et il lui a dit, il faut que tu le fasses. Et je le montrais. Voilà. Et le texte a été écrit, moi je l'ai pas lu du tout, hein. Et Philippe Adrien a commencé à le texte a été écrit, au début c'était un monologue le jeune homme, et Philippe Adrien a dit il faut développer le rôle de la morte, je voudrais qu'il y ait plus de dialogue, voilà. Il y a eu un échange. Et puis Philippe Adrien, au mois de mai, quelques mois après, a commencé pour le monter. Il y avait La Tempête qui était producteur, il y avait beaucoup de gens qui voulaient monter ce spectacle. Il a fait des auditions et il a rencontré Maïel et Amina, qu'il a engagé pour la création. Maïel vous parlera mieux que moi après du début des répétitions avec Philippe Adrien. Et Philippe Adrien a été touché par une maladie dégénérative et a dû quitter le projet et quitter La Tempête. Voilà, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et à la fois, je crois, les acteurs, Maïel, Amina, avaient envie de continuer ce projet. Les producteurs aussi. On dit, mais on ne veut pas lâcher la Reine Blanche. Je n'ai pas cité la Reine Blanche, qui était le premier, évidemment, producteur, et qui devait accueillir le projet. Et puis Françoise Castro, Frédéric Franck, on dit, on continue le projet. Et Philippe Adrien a dit à Jean-Louis qu'il pouvait encore, on pouvait encore échanger des choses, lui a dit, c'était Noël, il y a un an, il lui a dit, il faut que tu le fasses. Tout le monde peut mettre en scène, il lui a dit en riant, il faut que tu le fasses. Et puis Jean-Louis s'est attelé au projet, a engagé 2 autres acteurs, a préparé tout, les décors, a retravaillé sur le texte avec les acteurs, a rencontré pour les lumières, enfin tout monté le projet, et puis il a été atteint d'un cancer, d'un gros cancer, et le cancérologue, quand il lui a dit « je dois commencer à répéter le 18 décembre », lui a dit « je ne pense pas ». Et voilà, et c'est moi qui ai hérité du projet.
Vous avez repris le projet.
Voilà.
Vous parlez, Bernadette Le Sachet, avec émotion, comment est né ce projet.
Il est né d'une émotion.
Il est né d'une émotion forte, puisque c'est une histoire personnelle quelque part.
C'est une histoire complètement personnelle et en même temps qui devient même plus personnelle, mais c'est une histoire personnelle, oui.
Donc vous mettez dans cette pièce de théâtre vendredi 13. Alors je ne sais pas si on peut dire le sous-titre Vivre après le 13 novembre 2015, si c'est comme ça que c'est complètement présenté en termes de titre de cette création, pour que ça parle aussi.
Oui, parce qu'on connaît
ça parle
tous,
parce que comme
je
disais tout à l'heure,
tous les gens autour,
voilà.
Les jeunes qui étaient dans le café, qui eux nous ont dit qu'ils sont survivants, qui étaient à l'intérieur, nous ont dit on pourra
on n'oubliera
pas
jamais.
Venir, on n'oubliera jamais, on pourra pas venir. Les parents que je connais très bien, de surtout de deux des victimes, et qui nous ont demandé de mettre à nos chers disparus sur la feuille de salle, mais qui hésitaient, j'ai dit non, vous allez pas aller le voir. Mais autour, tous les gens autour viennent et sont très très bouleversés. Enfin, c'est tous les jeunes. Et puis, ça rejoint aussi toute la génération des 35 ans qui sont autour, dont je vois les états, dont je vois beaucoup sont chez les psys, beaucoup ont du mal à vivre.
Voilà, se relever de ça est quasiment impossible.
Avec des phobies.
Alors, il y a les écritures comme la vôtre, avec, enfin, comme celle de l'auteur Jean-Louis Boer, et vous avec la mise en scène qui accompagnait ce texte d'une forte réalité. Puis il y a les écrivains aussi, hein. On n'oublie pas aussi que des auteurs ont écrit. Je pense à ce confrère, si je puis dire, ce journaliste de France Info qui a perdu sa compagne et qui vit aujourd'hui seul avec son fils, qui quelques jours après a écrit a lancé un texte absolument magnifique, si je puis dire, et qui rappelait évidemment cette disparition et comment vivre après une disparition.
Voilà, c'est ça. Comment vivre après un deuil.
Voilà, comment vivre après un deuil. Et c'est le central aussi qui porte votre pièce vendredi 13 aussi.
C'est ça.
Sur effectivement qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir vivre apaisé, sereinement. On y reviendra peut-être sur justement qu'est-ce qui a fait qu'on a envie d'écrire et puis de porter ça. Je me tourne vers Mayel El Hajaoui. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour, aussi. Merci à vous.
Vous allez nous parler de votre rôle. Un mot pour vous présenter quand même avant d'entrer dans la pièce que vous portez aussi fortement. Vous avez une formation théâtrale, hein, une longue formation théâtrale, une formation au cinéma aussi.
Oui, un petit peu.
On passe du théâtre au cinéma. C'est quoi votre vie? Vous avez joué aussi dans les Navarro, non, c'est ça, Cléo de Julie Navarro, je me trompe, voilà, c'est ça.
C'est un court-métrage, d'ailleurs, qui vient de gagner un prix du public au Festival de Vaux-en-Velin, festival de court-métrage, et qui est sélectionné pour le prochain Festival de Cannes, dans la catégorie des courts-métrages. Et pour parler de Vendredi 13, parce que c'est quand même plus important que
on va parler de Vendredi 13, mais c'est important aussi de parler des comédiens,
oui,
d'où ils viennent et comment ils s'inscrivent dans une création.
C'est, évidemment, c'est très important. Après, si je peux me permettre, c'est vrai que pour moi, Vendredi 13, c'est tellement magnifique en tant qu'acteur à jouer que aujourd'hui je me concentre et je suis vraiment derrière ce texte et parce que c'est quelque
parce
chose
parce qu'il faut vivre pleinement c'est...
oui et puis que c'est vraiment un spectacle que j'invite à voir parce que c'est je joue dedans évidemment mais c'est déjà parce que c'est beau et qu'on essaye vraiment d'être sincère et que à partir du 13 novembre c'est vrai que on se doit de vivre et
Et vous, par exemple, quel est votre rapport avec ce 13 novembre de souvenirs?
Comme tout le monde,
j'ai
des amis qui ont été touchés. Je suis même encore ému quand j'en parle, mais c'est vrai que c'est un moment qui restera un peu gravé dans nos têtes jusqu'à la fin. Maintenant, c'est pas parce que c'est gravé qu'on doit être entre guillemets. Triste, etc. Il faut surpasser ça et grâce à Jean-Louis Boer et Bernadette qui nous ont pour un offert ce texte et pour l'autre essayer de le mettre en scène de manière sincère et honnête. On essaye de donner le maximum. Après voilà, ça reste quand même une pièce de théâtre.
Alors c'est une pièce de théâtre et quand un metteur en scène vous sollicite, vous lisez le texte et vous adhérez, donc vous l'acceptez, et puis après il faut le vivre, le travailler. Comment ça s'est passé la rencontre avec
C'est d'abord avec Philippe Adrien qui avait initialement eu le projet, qui m'a choisi. Donc Bernadette, la pauvre, n'a que hérité de moi. mais pour être honnête avec vous, j'ai lu le texte de Jean-Louis Boer et qui, moi, m'a ému à la première, à la deuxième, à la troisième, sans en rajouter. Il m'émeut souvent ce texte quand je le relis parce que c'est beau et encore une fois c'est pas parce que je joue dedans, même en tant que spectateur je le dis sincèrement, c'est pour ça que je répète qu'il faut voir ce genre de spectacle parce que non seulement le message est beau mais en plus on se prétend pas à donner ni des leçons, ni en tirer, ni voilà, on essaye juste de partager un moment sincère avec les gens. Et voilà, donc moi j'ai lu le texte de Jean-Louis Bauer qui m'a ému et qui m'a donné envie de jouer coûte que coûte ce texte. Donc j'aurais pu me battre avec beaucoup de comédiens physiquement pour avoir le rôle. Et ça, c'est vrai.
À ce point-là.
Ah ben, non, mais c'est vrai, quand vous êtes comédien, il y a des textes que vous lisez et que vous avez envie de défendre.
Et comme il y en avait d'autres sur le coup, c'est
ben, j'ai passé dire, des essais, j'ai passé une audition.
Une audition, voilà.
Une audition devant Philippe Adrien, son assistant et d'autres comédiens. D'ailleurs, c'était assez déroutant parce que Philippe Adrien nous a fait passer les auditions, mais les uns à côté des autres. Ce qui n'est pas vraiment le cas normalement au théâtre ou au cinéma. Quand je passe une audition au cinéma, quand mon agent m'appelle, j'ai un rendez-vous avec le metteur en scène et je passe mon audition seul.
Seul, d'accord.
Là, il nous fait non seulement passer l'audition, mais avec les autres comédiens qui passent pour le même rôle que toi, qui sont à côté de toi.
Et qui vous regardent et qui se disent, faut que je fasse mieux, parce que là, il se plante, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ou alors, ils disent, bon, ça va, je vais l'avoir.
Parce que lui, il est pas bon. Mais c'est vous qui avez été bon, finalement.
Je sais pas si j'ai été bon, sincèrement.
Vous avez été choisi, en tout cas.
J'ai été choisi. Après, ça reste du relatif. Comme pour la pièce, je veux dire, on aime, on n'aime pas, pour des choses qui peuvent être diverses et variées. Donc, en tout cas, Philippe Adrien m'a choisi. Un autre metteur en scène aurait pu choisir quelqu'un d'autre qui aurait été tout autant formidable. Puisque pour moi, vraiment, la chose la plus importante dans la pièce, et je le dis de manière très sincère, c'est pas les comédiens. Nous, on sert, si vous voulez. On est comme dans un grand restaurant, vous savez, où on parlait de monsieur Paul Bocuse qui nous a quittés il y a pas très longtemps. La cuisine, c'est pour moi le plus important. Et là, c'est ce qu'on fait. Donc, nous, on sert. Donc, si on sert mal les plats qui ont été faits par, entre guillemets, Jean-Louis Bauer, Bernadette, Philippe Adrien, qui ont quand même participé, donc il faut les citer, la Reine Blanche, Elisabeth, qui nous aide et qui nous reçoit à la Reine Blanche de manière extraordinaire. Nous, on sert. Donc, si on peut avoir de très bons plats, si on les sert mal ou si on les fait tomber, le client va être un peu déçu. Donc, nous, on essaye de servir ce beau texte qui, pour moi, est la star du projet.
On va revenir avec vous, vous en parlez passionnément, vous aussi. C'est dire si ce texte est porteur d'émotion. Hein. On y reviendra aussi avec vous, Bernadette Le Sachet. Vendredi 13, c'est le titre du spectacle, de cette pièce de théâtre. Vendredi 13, vivre après le 13 novembre 2015. C'est au théâtre de la Reine Blanche. Et ça se joue depuis le 20 janvier et ce jusqu'au 25 février. Et le théâtre de la Reine Blanche, on y reviendra à la fin de l'émission pour donner les rendez-vous et l'adresse. Je peux déjà le dire, c'est 2 bis passage Ruelle à Paris dans le 18e. Et vous retrouvez toute l'information sur le site de Beurre FM. On va se retrouver dans une deuxième partie de l'émission avec d'autres comédiens qui vont nous rejoindre. On va poursuivre les personnages, les rôles, parce qu'ils sont 4 sur scène avec une diversité, une parole assez singulière de chacun, chacune. Et c'est ça qui est important d'exprimer au travers cette création. Voilà, ils se retrouvent sur une scène qui n'est pas une scène banale. Hein. Vous la décrirez dans un instant, Bernadette Le Sachet. Pourquoi avoir installé dans ce lieu précisément les 4 personnages? Et c'est important de le souligner. On se retrouve dans un instant.
Rencontre sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que nous parlons ce dimanche matin de cette pièce de théâtre, Vendredi 13, Vivre après le 13 novembre 2015. Elle se joue actuellement au théâtre de la Reine Blanche. Le théâtre de la Reine Blanche est situé 2 bis passage Ruelle à Paris dans le 18e. Elle a commencé le 20 janvier et se poursuit jusqu'au 25 février. C'est du jeudi au samedi à 20h45. Et le jeudi 15 février, c'est à 14h30, sans doute une matinée un peu plus grand public, en tout cas une matinée. Je me tourne vers vous, Bernadette Le Sachet. Vous êtes donc metteuse en scène de ce spectacle dans une première partie avec Mayel El Hajaoui, comédien de cette pièce. On a évoqué le contexte de cette écriture et puis de cette mise en scène et puis du rôle aussi de notre invité, Mayel El Hajaoui. Est-ce que... Parlez-nous là de l'espace scénique. Vous êtes metteur en scène, donc vous mettez par définition, en scène un espace qui va ordonner les paroles de ces quatre comédiens qui sont sur scène. Je le rappelle, hein, il y a deux hommes et deux femmes qui sont quatre rôles particuliers, singuliers, qui retracent, on va dire en quelques lignes de quoi il s'agit, hein, parce qu'il n'est pas question de parler de terrorisme,
non.
Il est question de parler d'émotion au lendemain de cette terrible violence terroriste, pour le coup, mais en tout cas, parler de ces hommes et de ces femmes qui se connaissaient. Il y a Leïla qui a été tuée dans l'attentat, il y a Djibril qui est son frère, Jonas est son copain, Cécile sa rivale. Ils sont amis depuis si longtemps, et quand l'histoire, cette terrible histoire leur tombe dessus, bah, elle est tellement lourde à porter. Vous l'écrivez, hein, c'était écrit dans l'expression de la présentation de cette pièce. Voilà, ça nous tombe dessus.
Ça leur tombe dessus.
Sur la tête de tout le monde, et c'est tombé particulièrement dans leur rôle à ces quatre personnages qui vont échanger entre eux à la fois la violence, la douleur et l'espoir peut-être. L'apaisement, on l'espère, mais en tout cas, c'est ça qui est mis en scène, qui est raconté plutôt, et vous mettez en scène cet espace. Parlez-nous de cet espace sur
la
scène.
Cet espace important. Qui avait été imaginé par Jean-Louis, et qui d'ailleurs se termine sur Jérusalem, c'est l'espace des trois religions. La juive, la musulmane et la chrétienne.
Donc on est dans un cimetière.
On est dans un cimetière où on a réuni, et c'est la symbolique en tout cas des trois religions, dont la bouteille de vin à un moment devient l'explication de chaque différence. C'est minimaliste, mais chaque différence, mais en disant à un moment un même Dieu, c'est des religions monothéistes, mais trois énigmes différentes. Voilà. Mmh. Et donc c'est cet espace entre les traces des personnages, parce que ils sont tous mixtes. Il y en a un qui est de mère juive et de père catholique bourguignon. C'est bien dit, comme si le catholique bourguignon, c'est un peu comme la Normandie, ça fait, ou la Pays de la Loire, ça fait terroir français. Il y a évidemment l'espace musulman, et il y a l'espace catholique avec la vieille chapelle, et ces tombes sont un peu abîmées, comme si elles étaient ancestrales, comme c'est une histoire qui dure quand même depuis des millénaires. Et donc on a aussi c'est un petit peu la symbolique de la pierre abîmée, fissurée, avec des trous, puisque toutes ces religions ont traversé des sacrées fissures, elles continuent. Mmh. Et donc c'est un espace symbolique, mais qui est en même temps qui permet dans lequel, à l'intérieur duquel, les personnages tournent leur on peut tout dire, on peut dire leurs pensées, leurs névroses, leurs nostalgies, leurs violences, leurs indignations et leur désir de liberté, de tolérance aussi. Puisque très souvent, même quand on va trop loin dans l'intolérance d'une autre religion, le personnage revient en arrière et dit « Excuse-moi, tu m'as blessé et je t'ai dit une chose que je voulais pas te dire. Mm-hmm. » On se traite à un moment, il y en a une qui traite l'autre, son copain, son vieux copain depuis le CP, elle dit de sale juif, alors qu'elle a jamais, et qui vient s'excuser et qui trouve une seule chose à dire, c'est « Les musulmans et les juifs, vous êtes pareils, vous êtes circoncis. » Voilà, ouais, il y a des petites phrases comme ça qui ont l'air de rien, qui racontent. Et puis le jeune qui veut s'échapper de sa judaïté, sa mère, les mères d'ailleurs dans la pièce, les pères sont absents, on remarque complètement. Les mères ont un rôle très important. Et puis tout d'un coup, elle lui lâche « Ah, tu ressembles à ton grand-oncle ». Et tout d'un coup, il fait une grimace parce qu'il veut s'échapper de son passé. Et c'était très difficile de s'échapper de son arbre généalogique.
Mmh. Maïel, Djibril, un même personnage. Comment est vécu le rôle de Djibril pour Maïel?
Je suis le frère d'une personne qui a été assassinée alors qu'elle prenait simplement un petit verre en terrasse. Donc j'en veux à beaucoup de gens, comme j'en veux à quelque chose qu'on ne peut pas toucher, puisque c'est pour moi, pour Djibril, le comédien, l'interprète. Une douleur qui a pas vraiment pour moi de choses qu'on peut toucher. Donc c'est pour moi les douleurs les plus dures, vous savez, quand on peut pas vraiment
trouver la raison
et se dire que, pour moi en tous les cas, après en tant que personne, c'est que ces gens qui étaient là à ce moment-là sont partis, ça fait vraiment mal au cœur. Mais ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Bernadette, ça aurait pu être beaucoup de gens qui de temps en temps vont prendre un verre en terrasse, un café, un coca, sans vouloir faire de et qui se retrouveraient finalement à la merci de gens qui sont complètement fou, parce que je veux dire, moi, pour, en tous les cas, à mon niveau, je ne peux pas qualifier ça sous aucune étiquette, sous aucune religion, sous aucun prétexte qui soit, si ce n'est que c'est de la folie, c'est de la barbarie, c'est des choses qui n'existeraient même pas dans le subconscient des plus grands metteurs en scène, des plus grands scénaristes de films d'horreur. Donc c'est vrai que Djibril, en tous les cas, est hyper touché, il est hyper dérouté, parce que sa sœur, finalement, il l'aime plus que tout. Et, mais après, souvent, vous savez, quand on est en famille, on sait pas, c'est pas le meilleur, on n'a pas la meilleure façon de dire je t'aime à l'autre.
Voilà. Il n'y a pas de colère dans les personnages.
Je pense que, en tous les cas, à mon niveau, pour moi, il n'y a pas une colère visée. C'est une colère contre moi-même, et il y a beaucoup de colère. Mais je pense qu'on a envie aussi de s'apaiser après. Enfin, c'est quelque chose où on a besoin de voir ma sœur Laïla. On a besoin de venir là pour pouvoir peut-être passer à une autre étape. Mais ça se fait petit à petit.
D'ailleurs, il termine avec un livre de poésie.
Oui, bien sûr.
Et sur le féminisme aussi.
Oui.
C'est en train de s'écrire, le féminisme.
Mais dans l'écriture de cette pièce de théâtre de Jean-Louis Boer, j'évoquais l'émotion, j'évoquais la tendresse aussi, parce qu'il est question aussi de ça. Oui. Il y a les paroles singulières de chacun et chacune des comédiens dans cette pièce ont des choses à dire qui sortent du ventre, quoi.
Oui.
C'est quand même quelque chose de très concret. C'est aussi le parti pris dans cette écriture.
Oui, complètement. C'est complètement.
De dire, voilà.
Ben oui, dans le groupe dont on parle, de la belle équipe, il y avait 3 musulmans et 3 qui ne l'étaient pas. Et qui n'était pas d'ailleurs, je crois, très pratiquant.
Viennent de nous rejoindre les comédiens attendus. Voilà, merci d'être là ce dimanche matin à Beurre FM. On va les retrouver dans un instant. Peut-être que Bernadette Le Sachet, si vous le voulez bien, on va juste une autre question avec vous et échanger avec les autres comédiens. Sur cette pièce de théâtre, le public qui, quand elle a été écrite, vous pensiez au public, cette diversité, à la fois il y a une diversité dans l'écriture de paroles, donc une diversité de public, c'était important pour vous?
Non, on n'a jamais... je vais dire, c'est pas qu'on pensait pas au public, mais je peux pas dire pour Jean-Louis, je peux pas penser à sa place, mais pour moi, évidemment qu'on pensait à une chose simple, à clarifier, à pas d'esbrouffe, à pas de fausse théâtralité. On cherchait juste à raconter une histoire simple et terrible, mais en même temps, quand je dis terrible, non, simple et émotionnelle, mais aussi pleine d'espoir. Mais bien sûr que moi, je pense toujours au public. S'il y a des choses que je comprends pas, comment le public les comprendra? Ça, c'est une chose qui est... Et puis, il y a des choses que... C'est Laurent Terzieff qui avait appris ça. Des choses trop obscures, des choses trop de signes sur scène. On s'en gargarise pour quand on monte les spectacles, mais après, alors il y a peut-être une personne dans le public qui l'a compris, mais moi, je pense que le théâtre populaire, c'est important aussi, quand je dis
accessible à tous, évidemment.
Et tout ça, oui.
Un mot encore,
oui,
qui est important dans la pièce de théâtre, et je m'adresserai aussi aux comédiens pour en parler dans leur personnalité sur scène, de le vivre, c'est cette histoire de drapeau qui m'a un peu perturbée,
oui,
je l'avoue, qui m'a intéressée aussi. Hein,
oui.
Et me demandant qu'est-ce qu'il venait faire là, quand on sait qu'il n'y a pas spécialement de drapeau sur une tombe, il n'y a pas de drapeau français sur une tombe,
non.
Si ce n'est qu'il devait signifier évidemment l'appartenance à la France,
voilà,
de Laïla. Mais
je crois qu'alors là, c'est parti de Jean-Louis qui, quand vous savez, ils avaient dit il faut mettre un drapeau sur vos fenêtres. Il y a eu quelques jours après les attentats. Et je sais que ça a été une chose incroyable pour lui, qui se sent français, qui est juif, bon, dont la famille est partie à Auschwitz, la moitié de la famille, à part ses parents, sinon il serait pas en vie. Et je sais que ça a été très très compliqué, et qu'il a ramené un jour à la maison un tout petit drapeau, le plus petit possible, parce que l'émotion de tout ce qui s'était passé, il pouvait pas dire je refuse d'en être. Et en même temps, et c'est la phrase qu'il dit à un moment quand il est rentré dans le magasin, je crois que c'est lui qui parle, c'est Jean-Louis qui parle, c'est que il y en avait des très grands, il y en avait des tout petits, et même ce petit, il se disait je l'achète pas. Et donc le drapeau est la symbolique de aussi, comme après Charlie, des gens qui disaient je ne suis pas Charlie. Il y a eu tout un problème des gens qui disaient mais on n'est pas Charlie, on est Charlie. Il y a les gens qui disaient le drapeau ça peut faire penser au Front National. Le drapeau c'est la patrie avec ce que ça son synonyme d'exclusivité. Vous êtes ailleurs. Donc c'était la symbolique du drapeau pour Jean-Louis était extrêmement importante. La difficulté de dire c'est pas forcément c'est ma patrie et tout d'un coup le personnage que joue Loïc le revendique d'autant plus. Il revendique d'autant plus le drapeau et il insiste pour exciter l'autre. Il lui dit c'est le drapeau français, français, français. Et tout d'un coup on revient au vieux thème, à ce vieux thème de la patrie qui exclut les gens, qui exclut ceux qui arrivent. Et c'était pour ça très important parce que on veut pas dire que Djibril pense que la France c'est pas bien, c'est pas ça du tout. Mais tout d'un coup il voit la provocation qu'il y a dans ce drapeau. C'est où est-ce que tu te situes, où est-ce qu'on se situe.
Voilà. Merci Bernadette Le Sachet. Je rappelle que vous êtes la metteuse en scène de ce spectacle Vendredi 13 qui a commencé le 20 janvier et se poursuivra jusqu'au 25 février. Ça se passe au Théâtre de la Reine Blanche et la Reine Blanche est 2 bis passage Ruelle à Paris dans le 18e arrondissement. On se retrouve dans un instant avec 2 autres comédiens qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être à Beurre FM ce dimanche matin. On se retrouve tout de suite.
Rencontre sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Rencontre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que ce dimanche matin, Rencontre est consacrée à une pièce de théâtre qui s'appelle Vendredi 13, Vivre après le 13 novembre 2015. Une pièce de théâtre qui se joue actuellement du 20 janvier, qui a commencé le 20 janvier, qui se poursuit jusqu'au 25 février au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. C'est 2 bis passage Ruelle Paris dans le 18e. C'est au métro Max Dormois. Voilà pour les informations pratiques et pour les informations sur la pièce qui est absolument une pièce tout à fait intéressante, émouvante. Je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est une pièce, et nous le disait aussi passionnément tout à l'heure le comédien Maël El Hajaoui, qui invitait les auditeurs et auditrices à aller voir cette pièce et je poursuis dans cette invitation parce que elle est un rendez-vous avec l'histoire importante. Vient de nous rejoindre Loïc Lemanac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là et nous rejoint aussi également dans cette matinée Margot Vanov.
Oui,
bonjour. Ça va bien?
Oui,
ça va.
Oui,
vous êtes sur scène dans cette pièce de théâtre, vous aussi. On a rappelé dans une première partie de l'émission de quoi il s'agissait. Hein. Le titre même nous évoque ce rendez-vous avec l'histoire, l'histoire inoubliable. On le disait aussi tout à l'heure hein, sur ce terrible, j'allais dire fameux, mais plutôt terrible et violent vendredi 13 novembre 2015. Et cette pièce de théâtre mise en scène par Bernadette Le Sachet, qui est l'invitée de Beurre FM aussi ce dimanche matin, nous rappelait tout à l'heure combien et avec émotion, combien était important d'avoir mis en scène cette pièce de théâtre écrite par Jean-Louis Boer autour de 4 personnages. Ouais. Nous en avons 3 ce dimanche matin. Vous 3, vous évoquez chacune un rôle dans cette pièce. On rappelle que Leïla a été tuée dans l'attentat, que Djibril, son frère, interprété par Maël El Hajaoui, et puis vous, Jonas, que ouais. Vous interprétez, Loïc Lemanac, et vous, Margot, vous interprétez aussi un autre personnage.
Oui.
Comment? Alors, l'un et l'autre, vous allez nous dire, comme je le demandais à l'autre comédien, à Maël, comment on entend un texte comme celui-là aussi fort quand on est comédien, comédienne? Vous avez un parcours, je le dis très rapidement. Hein. Alors vous étiez en mathématiques et qu'est-ce que vous faites sur scène aujourd'hui? Hein, vous allez nous dire tout ça parce que en lisant la présentation de votre biographie, il y a quand même de nombreux spectacles qui ont été où vous participez. Il y a du théâtre aussi, je crois. Enfin du théâtre, du cinéma peut-être. Oui. Il y a vraiment. Vous avez une carrière si jeune et une carrière déjà si prolifique, on va le dire comme ça. Et vous, Margot, c'est pareil. Vous êtes vous directement dans une formation théâtrale au Conservatoire de Paris, et puis vous avez été vous aussi. Vous avez travaillé avec Bernadette Le Sachet, c'est ça?
Ouais. Oui.
Voilà.
Alors en fait, justement.
Alors racontez-nous l'un et l'autre. D'abord vous, Loïc Lemanac, rapidement,
oui,
nous parler de vous, et ensuite vous dans ce texte,
ouais.
Dans cette interprétation.
D'accord. Oui, alors en fait, Margot et moi, on était en cours avec Bernadette Le Sachet et après on est partis en Suisse tous les deux. Bon, Margot et moi, on se quitte pas beaucoup. On a un petit peu les mêmes parcours. Mais autrement, non, moi j'ai fait des mathématiques au départ et puis finalement j'ai bifurqué vers le théâtre. Comme quoi, tout est possible. Et puis bon, bah, pour ce qui est de notre jouer une pièce comme ça dans notre parcours de comédien, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je suis dans une pièce qui a un lien avec une actualité directe, enfin une actualité récente.
Donc vous lisez le texte et puis il vous prend.
Il y a quelqu'un
en sélection aussi, en audition aussi, comme le rappelait tout à l'heure Maëlle.
Ouais, bien
jouer le rôle.
Oui. C'est, ben en fait, on rencontre du coup. Là, on avait rencontré donc Jean-Louis Bauer qui a écrit la pièce, et puis. Voilà, enfin c'est une audition, enfin en lecture, quoi, enfin donc voilà. Mais donc pour jouer une pièce comme ça, c'est vrai que moi la première lecture, il y a quelque chose où un peu vu que c'est sur une actualité brûlante, on est un petit peu sur un fil à se dire comment on va pouvoir monter ça et puis comment on va pouvoir ne pas être dans les clichés parce que chacun a reçu ces événements un petit peu d'une façon différente. Donc à partir de là, il faut que on puisse ouvrir un sens qui que tout le monde puisse entendre, on va dire quoi. Et donc c'est vrai que pour un comédien, ça demande quand même pas mal un petit peu de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à cet événement-là et puis qu'est-ce qu'on peut modifier, quel message on veut faire passer, quoi, enfin. Donc, voilà.
Dans la pièce, vous êtes Jonas ?
C'est ça.
Alors, parlez-nous de Jonas.
Et Jonas, bah, du coup, Jonas, c'est le copain de Leïla. Et au moment donc, où Leïla est assassinée, et lui, il continue en fait à être en contact avec elle depuis qu'elle est décédée. Et puis en fait, il lui parle et puis il se rend sur sa tombe et puis il continue à lui parler et puis à lui dire qu'il l'aime. Et en fait, pour lui, c'est comme si elle avait pas disparu.
Elle avait pas disparu.
Mais donc il a un petit peu des crises de folie, quoi. Enfin, voilà.
On a rappelé tout à l'heure qu'effectivement la scène se passe au cimetière et Bernadette Le Sachet nous rappelait qu'effectivement l'espace était un cimetière,
ouais,
avec les trois tombes qui symbolisaient les trois religions,
ouais,
effectivement, parce que les personnages sont issus aussi de
religions,
cette diversité religieuse.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ben, ils sont issus de traditions, enfin de religions différentes, mais après. Mon personnage, il est catholique et juif, mais pratiquant ni d'une religion ni d'une autre.
Oui, mais il y a eu besoin de le dire à un moment donné quand tous ces quatre personnages vont se retrouver.
Ouais.
Ils étaient amis d'enfance, on l'a rappelé tout à l'heure.
Ouais.
Je le ressouligne. Et puis il y a eu des frictions parce que elle a aussi donné des frictions cette situation.
Ouais.
Vous le rappelez, c'est un événement actuel. C'est dans et au lendemain de ce terrible 13 novembre 2015, chacune a subi ça hors théâtre. Hein, je parle, mais dans la vie. Et puis les religions, les amis, bah souvent il y a eu des discussions condamnant le terrorisme,
Et
pour d'autres condamnant la religion, alors que c'était pas ça qu'il fallait faire.
Ouais.
Donc c'est ça qui est important qui a été important de souligner dans cette pièce, c'était la diversité et des personnages et de leur religion.
Ouais.
Bien sûr.
Et pour vous, alors Margot Werner, vous êtes aussi un des personnages importants
De l'histoire.
Et dans votre parcours, peut-être rapidement, votre parcours, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous avez travaillé vous aussi avec Bernadette Le Sachet.
Oui,
voilà.
Conservatoire.
Faut parler un peu plus fort.
Ah oui, du conservatoire, enfin au conservatoire du sixième. Et enfin, en fait, on a eu le même parcours à peu près avec Loïc. Voilà. Moi, par contre, non, j'ai pas fait de mathématiques. Avant, moi, je suis en train de casser tous les micros. Non, moi, je viens du théâtre depuis. Enfin, mes parents sont dans le milieu théâtral, et donc voilà, je suis un peu. Un enfant du théâtre.
Et comment vous recevez ce texte vendredi 13? Ça, c'est important de savoir.
Oui.
Un peu comme les deux autres comédiens tout à l'heure. Vous avez lu le texte, auditionné?
Oui, j'ai ma première lecture, je me souviens, j'ai été très très émue. Enfin, j'ai les larmes qui sont venues à mes yeux.
Ouais, les larmes ont coulé tellement ce jour-là.
Elles
ont continué avec vous en lisant le texte, bien sûr.
Oui, mais quelques mois après, enfin,
disons que, enfin, j'ai lu le texte, je crois, oui, il y a un an. Oui, ben, disons, ah oui, moi, je parle pas, oui. Oui, alors, voilà. Oui, donc, les larmes, ouais, sont arrivées et
qui interprétez-vous, alors, dans ce rôle? Décrivez-nous un peu votre personnage, comme on dit.
Alors, je joue Amana. Mais Amana, en fait, son vrai prénom, c'est, enfin, en fait, elle s'appelle Lucie, mais elle a changé de prénom en se mariant avec Djibril. Enfin, elle s'est convertie par amour à l'islam et donc par amour, mais elle a aussi une, je pense qu'elle a, enfin, elle a une foi. Enfin, elle croit vraiment en Dieu, quoi. Enfin, elle s'est vraiment convertie aussi par conviction religieuse. Et tout ça, c'est aussi l'amie de Leïla et de Jonas. Ils se sont, bah, comme on l'expliquait, sans doute vous avez expliqué que c'était des amis très proches durant le lycée. Et après, ils se sont un peu éloignés. Et...
Qu'est-ce qui a été perturbant pour vous, pas pour vous comme comédienne, mais dans le rôle de vivre dans cette histoire? Amana, qu'est-ce qui la perturbe le plus dans cette histoire-là?
Qu'est-ce qui la perturbe le plus?
Son rapport avec Jonas, avec Djibril, avec...
Bah, c'est que, en fait, son mari est parti, ça fait 5 jours... elle le cherche, elle voit que tout le monde est complètement déboussolé, et elle l'est aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus dans une autre façon de faire son deuil. Elle reste dans la vie à Amana, elle est moins dans, elle veut continuer à vivre, et en fait elle est heureuse de vivre, elle veut continuer à aller plus vers l'avant, quoi.
Voilà. C'est un peu ce que dit l'histoire, hein, dans... Il y a le deuil, il y a le drame, mais il y a aussi la vie continue. Donc, il y avait aussi cette volonté-là. Je me tourne vers vous, Loïc.
Ouais, bien sûr.
Vous incarnez Jonas. Donc, c'est pareil. Il est complètement fou. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il était un peu perdu aussi. Mais il faut vivre quand même.
Ouais, c'est ça. Ben, après, c'est vrai que si, ce qui l'amène dans ces crises un peu de folie, je pense que c'est parce qu'il vient trop avec le passé. Et c'est ce que raconte aussi la pièce, c'est qu'il faut... malgré ces événements, il faut vivre le présent pour garder en fait la liberté et puis la joie et puis que la vie continue. Et à la fin de la pièce, je crois que, enfin, au moment sur Leïla, ce qu'elle passe comme message, c'est continuer à vous aimer en fait, et puis ne vous laissez pas écraser par des événements comme ça. Il faut que la vie continue. Et que du coup, si on reste trop accroché au passé et puis au drame, eh ben il y a quelque chose où on bascule aussi dans des crises de démence où on peut pas continuer à vivre comme ça, quoi.
Si on reste seul aussi.
Et si on reste seul,
oui. Là, en fait, là on voit quand même 3 solitudes. Ouais. Enfin, Jonas, il est seul. Amana, elle arrive seule au cimetière. Djibril, il arrive... tout le monde pense arriver seul, et en fait, ils vont se retrouver.
C'est ça.
Et
vu que c'est à la base, c'est vraiment un groupe d'amis, et c'est vrai qu'il y a aussi ce message de c'est en vous retrouvant, parce que de les mettre devant le fait qu'en fait, c'est cet événement qui ont fait qu'ils se sont séparés, mais en fait...
Faut qu'ils se retrouvent absolument.
Oui, ils se retrouvent, exactement.
On sent dans la pièce qu'effectivement, il y a cette volonté d'être ensemble, d'être unis, pour être apaisés, peut-être.
Exactement, pour être apaisés, et puis pour... que le souvenir de Leïla soit un souvenir beau et puis soit pas le souvenir de ses coups de fusil qui l'ont assassiné, quoi.
On va revenir avec pendant une petite minute, parce que on aurait longtemps à parler avec vous, mais on va donner envie aux auditeurs et auditrices de venir, parce que c'est une pièce importante. Et justement, tout à l'heure hors micro, vous me rappeliez, Bernadette Le Sachet, que cette pièce allait être jouée Après Paris, elle va être jouée en...
À Amiens,
et ça, c'est bien.
Comédie de Picardie, Nicolas Ouvray, c'est Mayel qui est l'instigateur de ça.
Et
il a bien fait, il y a 4 représentations. Je sais que Jean-Louis avait été parlé à Amiens en mai, et ça a dû, je crois que ça a dû être formidable, l'échange qu'il y a eu au théâtre. Et c'est le spectacle qui est parti, je crois, plus vite au niveau des réservations. Il est parti tout de suite. C'est comble. Et ça va être avec devant des jeunes.
Voilà.
Et
vous me rappeliez aussi que c'était avec des jeunes. Et ça, c'est important.
Des classes de seconde et première. Ouais. Moi, je dois aller rencontrer. On doit travailler ensemble sur ce thème pendant 2 journées. Et je trouve ça magnifique que des jeunes de 30 ans, 35 ans, de 25 ans viennent. Parce que ça, je pense que c'est une pièce qui n'assène rien. Mais quelqu'un a dit une fois, ça nous donne à penser. Voilà. Et c'est ça. On laisse les gens libres de penser, mais ça n'assène rien. Et surtout, il n'y a aucun cliché dans cette pièce. Et si on pourrait dire qu'il y a des clichés, il y en a sur tous. Le bourguignon, il a les joues rouges. Voilà. Ouais. Alors on peut dire, peut-être qu'il se remarie, le monsieur qui est musulman. Mais ça arrive aussi aux catholiques de se remarier. Et le père catholique, il est pas beaucoup présent.
Ouais,
et la mère de celle qui s'est convertie, qui était pas du tout musulmane, elle est pas du tout présente. Elle a pas accepté que sa fille devienne musulmane. Donc on peut dire, s'il y a cliché, que les gens regardent dans la soupière, et il y en a pour tout le monde à ce moment-là.
Absolument.
Et notre vie est aussi faite de clichés, mais après, c'est à nous de les transformer.
Loïc Lemanac, vous avez envie d'ajouter quelque chose avant qu'on se quitte les uns les autres, ou Mayel, si vous vouliez venir dire, voilà, moi j'invite les comédiens là, dire un peu les mots de la fin, Margot ensuite, Margot Vandoeuvre ensuite, Mayel.
Oui, juste dire que il faut vraiment venir voir ce genre de spectacle, puisque c'est pas parce qu'on y joue dedans qu'on le dit, mais c'est sincère, parce que nous on le joue et on se rend compte que finalement on se sent après chaque représentation hyper heureux d'avoir essayé de partager ça avec des gens. Loïc, Amina, Margot, on est 4 comédiens, on est quasi de la même génération et sincèrement on s'amuse bien à vouloir essayer d'être honnête avec les gens.
Merci Loïc alors.
Déjà effectivement c'est une pièce dans laquelle on prend beaucoup de plaisir et on essaye d'ouvrir un espace de liberté de pensée effectivement
et de compréhension de l'histoire aussi.
Un petit peu de compréhension de l'histoire exactement et puis tout ça avec nos générosités d'acteurs et puis si ça peut donner à penser en tout cas à tous les gens qui viennent voir la pièce, on sera ravis aussi de continuer à parler et d'échanger avec eux sur ce spectacle.
On sera de plus en plus nombreux, j'en suis sûr, au théâtre de la Reine Blanche. Margot, pour finir.
Oui, alors moi aussi je suis très heureuse de jouer cette pièce et en fait, pour moi c'est pas du tout une pièce qui donne une morale, voilà, c'est fait très intelligemment. Souvent les gens quand ils sortent, ils se sont dit waouh, vous rentrez pas dans les clichés, comme on disait tout à l'heure, ça nous donne vraiment à penser et ça fait du bien en fait de reparler de ça en fait. Enfin, je trouve les gens ils sont assez heureux en sortant et voilà.
Et voilà.
Merci
Margot. Voici le rendez-vous. C'est vendredi 13, vive après le 13 novembre 2015. Ça se joue au théâtre de la Reine Blanche. 2 bis, passage Ruelle. C'est à Paris dans le 18e. C'est au métro Marx-Dormois. La pièce a commencé le 20 janvier et se termine au 25 février. Elle se joue du jeudi au samedi à 20h45, en matinée le dimanche à 15h30 et une représentation exceptionnelle sans doute le jeudi 15 février à 14h30. Merci à vous d'être venu ce dimanche matin. On se retrouve pour les auditeurs la semaine prochaine. Un autre rendez-vous de rencontre. Au revoir à tous, au revoir à toutes et bonne semaine.
Rencontre sur Beurre FM.